20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. C'est l'une des figures les plus singulières et sans doute les plus attachantes de la musique du XXe siècle. Le compositeur catalan Federico Mompou nous a laissé une œuvre empreinte de dépouillement et de contemplation. Une musique à son image, celle d'un homme réservé et d'une extrême sensibilité. Jérôme Bastianelli nous en dresse le portrait dans un bel ouvrage publié aux éditions Actes Sud et il sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale, c'est demain que débute la nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, édition sans public mais 100% en ligne, que Radio Classique vous fera vivre pendant 15 jours jusqu'au 11 avril. Coup d'envoi demain avec un programme modifié selon les aléas de cette vie musicale bien fragilisée par la pandémie. Alexandre Kantorov et l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, qui devaient donner ce concert d'ouverture, ne pourront faire le déplacement jusqu'à Aix-en-Provence. Renaud Capuçon donnera donc ce concert d'ouverture en compagnie du pianiste François-Frédéric Guy et du violoncelliste Edgar Moreau. Ensemble, ils joueront deux trios de Beethoven, un concert que nous diffuserons en direct à 20h30. L'autre festival de Pâques, celui de Deauville, a également été maintenu dans une version numérique. Il s'enchaînera quasiment à l'édition aixoise puisqu'il se tiendra du 17 avril au 8 mai et réunira une pléiade de musiciens en faisant la part belle aux jeunes. La fine fleur de la nouvelle génération sera ainsi représentée à Deauville, du claveciniste Justin Taylor et de la mezzo-soprano Adèle Charvet, aux violonistes Pierre Fouchendré et David Petric, en passant par Adrien Lamarca, Manuel Vioque-Jude, Victor-Julien Laferrière et tant d'autres. Vous trouverez toute la programmation sur le site Musique à Deauville. Les concerts seront diffusés sur le site de France 3 Normandie, sur Facebook et sur Recit Hall. La flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert nous avaient offert l'année dernière un merveilleux album dédié aux compositrices françaises de la fin du 19e siècle. Un programme que les deux musiciennes avaient prévu de donner en concert toute cette saison. Concerts auxquels elles ont dû malheureusement renoncer pour cause de pandémie. Elles pourront toutefois redonner vie à ce répertoire qui leur tient tant à cœur sur scène. Ce sera le 3 avril, donc samedi de la semaine prochaine à 20h, un récital qui sera diffusé en direct sur le site Recit Hall. Chanson, ainsi s'intitule cette pièce d'Augusta Holmès, jouée par la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert. Une pièce qui figurera au programme du concert que donneront ces deux musiciennes le samedi 3 avril à 20h, concert qui sera diffusé en direct sur le site Recit Hall.
Laure Maison sur Radio Classique.
Né en 1893 à Barcelone et mort dans cette même ville en 1987, le compositeur Federico Mampau, qui s'est essentiellement consacré au piano, nous a laissé une œuvre aussi touchante qu'ensorcelante et sensuelle, aux accents dépouillés, voire mystiques. Alors, quelle personnalité se cachait derrière cette musique? C'est ce que nous allons évoquer ce soir avec notre invité Jérôme Bastianelli, auteur d'un bel ouvrage intitulé « Mampau, à la recherche d'une musique perdue », tout juste publié aux éditions Actes Sud. Et pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter pour commencer quelques notes de la première des Canzoni Danzas, l'un des cycles emblématiques de Mampau, joué ici par celle qui fut l'une de ses fidèles interprètes et ambassadrices, la pianiste Alicia Della Rocha. Alors c'est un monde contemplatif, émouvant, dépouillé, profondément poétique que nous allons évoquer avec vous, Jérôme Bastianelli, celui de Federico Mampau, auquel vous venez de consacrer un ouvrage publié aux éditions Actes Sud, un ouvrage intitulé « Federico Mampau à la recherche d'une musique perdue », un titre aux références proustiennes donc. Il y a chez Mampau une dimension proustienne, ne serait-ce qu'une nostalgie proustienne selon vous?
Écoutez, il y a quelques points communs, oui, peut-être que c'est mon attrait pour Proust qui me disait, a fait voir, mais il y a effectivement une recherche de certains souvenirs d'enfance, et son épouse Carmen Bravo disait que l'inspiration de Mampau lui venait parfois en entendant un bruit dans la rue, un coup de sifflet d'un ouvrier ou d'un policier, ou d'un son de cloche, et que tout ça, du coup, faisait réveiller un certain nombre de souvenirs d'enfance, de sa propre enfance, et ça, effectivement, ça fait un peu penser à ce qui se passe dans l'œuvre de Proust aussi. Et puis, à la recherche d'une musique perdue, c'est aussi, je crois, une sorte de traduction du chemin esthétique qu'a voulu suivre Federico Mampau, puisqu'il faisait la comparaison avec la peinture minimaliste, où on se dit, ben voilà, on fait de moins en moins, puis après, on arrive à un carré blanc sur fond blanc, et après, il faut bien recommencer à faire quelque chose un peu différemment, et c'était un peu son projet esthétique de recommencer à réécrire de la musique avec d'autres bases.
Alors, c'est un compositeur à part, dont le langage s'est développé véritablement à l'écart des grands courants musicaux et modernistes de la première moitié du XXe siècle. C'est un langage très simple, c'est un langage visage dépouillé, très discret, qui est à l'image de l'homme que vous nous décrivez dans cet ouvrage, un homme ultra timide, hypersensible, presque maladivement sensible et timide.
Oui, en effet, c'est sans doute le principal trait de son caractère, c'est que c'est quelqu'un de très discret, qui voulait se placer un peu à l'écart du monde, et qu'à un moment, il disait qu'il serait jardinier à Barcelone, parce que ça lui paraissait être un bon travail pour être d'une part à l'écart et entouré de belles choses, et d'autre part peut-être un tout petit peu contemplatif, peut-être qu'il n'avait pas forcément une très bonne vision du métier de jardinier. Il disait aussi que sa musique avait réussi malgré tout ce qu'il a fait contre elle, parce qu'effectivement, sa vie est émanée de rendez-vous manqués, que ce soit avec Gabriel Fauré quand il arrive au conservatoire de Paris en 1911, avec une lettre de recommandation de Granados, ce qui n'est pas rien quand même, et il attend trop longtemps dans l'antichambre du directeur du conservatoire, et là d'attendre, il s'en va, parce que la pression est trop forte sur ses épaules, il s'en va, et une dizaine d'années plus tard, le grand critique musical Émile Villermoz veut faire une interview de lui, donc un rendez-vous est pris, et la veille, il part de Paris, la pression là aussi est trop forte, et il renonce à suivre cette interview, donc effectivement c'est quelqu'un qui est très discret de caractère, qui n'aimait pas qu'on parle de lui.
Alors, Federico Mompao est né à Barcelone, mais il a séjourné entre Paris et Barcelone. Il avait d'ailleurs des origines françaises par sa mère. Il était particulièrement lié à la Catalogne, qu'il célèbre quelque part dans sa musique, mais avec une approche qui n'est pas celle d'un folkloriste. Cette Catalogne, elle transparaît à travers ces harmonies que vous appelez savoureuses, Jérôme Bastianelli.
Oui, en effet, je pense qu'il a voulu traduire l'ambiance de la Catalogne de deux manières différentes. D'une part, avec ses bruits, les bruits de la ville de Barcelone, les bruits des faubourgs, les bruits des jeux d'enfants sur la plage, tout ça, ce sont des choses que l'on retrouve dans ses partitions, sous ces titres-là d'ailleurs. Et puis aussi, une manière, bien sûr, les danses folkloriques sont présentes dans une des œuvres sans doute les plus connues, le cycle des chansons et danses, mais il s'est amusé parfois à prendre des thèmes du folklore catalan et à les harmoniser d'une manière tout à fait personnelle. Et parfois, il a fait du faux folklore, enfin du vrai faux folklore. Il a lui-même inventé des nouvelles mélodies qui paraissent encore plus réelles que les anciennes. C'est assez intéressant.
Un petit extrait des scènes d'enfants de Federico Mompao que nous écoutions dans l'interprétation du pianiste Arkady Volodos. Federico Mompao, auquel vous avez consacré votre ouvrage, Jérôme Bastianelli, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. On évoquait la Catalogne qu'il traduit dans sa musique, notamment dans ce cycle. La Catalogne qu'il traduit à travers des parfums, à travers des sonorités. Alors, il y a celle des cloches qu'il entendait dans son enfance. À travers ses harmonies si particulière, il avait, ce que vous racontez dans cet ouvrage, un rapport très intuitif, Federico Mompao, avec la musique, avec l'écriture.
Oui, il a suivi quelques cours théoriques de musique qui l'ont pas enchanté. C'est d'abord un pianiste, c'est d'abord un artisan du piano, quelqu'un qui cherchait ses harmonies particulières en les jouant lui-même, qui faisait marcher son imaginaire de manière sans chercher à appliquer une recette. Enfin, je dis pas que les autres compositeurs ont, évidemment, les grands compositeurs ne cherchent pas à appliquer des recettes, mais vraiment dans son cas, c'était vraiment pas l'objet, quoi. Il avait un bagage théorique qui était quand même assez limité et ça l'a pas empêché d'écrire des choses très très personnelles et d'écrire. C'est comme quelqu'un qui inventerait une nouvelle langue, quoi, une nouvelle grammaire.
Et quel rapport entretenait-il avec ses contemporains? Certains étaient ses amis, avec d'autres il a eu des relations plus compliquées, plus décevantes.
Il était assez bien perçu, il a vécu à Paris, qui était la capitale des arts pendant l'entre-deux-guerres. Il était très ami par exemple avec Poulenc, il a joué dans les salons, enfin il aimait pas y aller mais ses amis justement le poussaient. Il était fasciné par Ravel et il y avait un petit désaccord malgré l'admiration que Monpou portait pour son aîné. Il y avait un petit désaccord sur l'esthétique de la musique et Monpou justement plaidait pour une musique très intuitive alors que Ravel lui répondait qu'au contraire il fallait que les choses soient très très pensées, que chaque détail devait être pensé.
Alors c'est vrai que la musique de Mampau, elle a un côté très simple. On l'a souvent associée un peu facilement peut-être à l'esthétique de Satie, mais elle tiendrait davantage, selon vous, Jérôme Bastianelli, de Debussy et même de Chopin, puisqu'il y a un côté très romantique. On est véritablement dans l'héritage romantique.
Oui, il y a du Chopin chez Monpou, c'est sûr. D'ailleurs, il a écrit des variations sur un des préludes de Frédéric Chopin. Son professeur de piano l'appelait Frédéric II, justement, par comparaison avec Chopin. Et puis, on parlait tout à l'heure des chansons et danses. Les chansons et danses, dans l'esprit, sont pas aussi éloignées que ça des mazurkas de Chopin. C'est-à-dire que quand Monpou commence à écrire des chansons et danses, il est à Paris, justement, et il a sans doute cette nostalgie du pays natal. Donc, ça fait évidemment aussi penser à la manière, enfin, aux raisons pour lesquelles Chopin lui-même a écrit des mazurkas et des polonaises. Et puis, il y a cette manière, oui, de faire revivre par la musique la grandeur du pays qu'on a quitté. Donc, il y a sans doute des choses comparables entre les deux, puis cette manière de faire chanter le piano aussi, qui, alors évidemment chacun avec un style tout à fait différent, mais c'est deux grands chanteurs de piano si on peut dire ça.
Mais dans un langage qui n'est pas si simple que cela, quand on écoute la musique de Mampau, il y a des dissonances, il y a des recherches harmoniques très poussées.
C'est pas du tout, non, c'est au contraire, c'est des harmonies avec des accords très étonnants, et comme le disait Jean Kelevitch, Monpou distend à l'infini notre tolérance auriculaire, parce qu'il nous fait supporter des choses qui, dans toute autre partition, nous choqueraient, parce qu'on est habitué à Stravinsky, puis à tous les grands compositeurs du XXe siècle nous ont habitués à pire, mais ça nous surprend un tout petit peu plus, alors que dans Monpou, ça paraît très naturel, quoi. La dissonance perd de son côté un peu de rupture. Il y a quelque chose de très doux dans les dissonances de Monpou, et c'est vraiment de la magie, quoi, en quelque sorte.
Oui, c'est un côté magique, hein. Oui. Il arrive à nous hypnotiser avec sa musique, énormément de sensualité qui fait que ces dissonances ou ces modalités
On est bien.
C'est vrai qu'on est bien quand on écoute la musique de Mampau. Il y a ce côté contemplatif et qui nous fait du bien. Il a essentiellement écrit pour le piano. Et il disait d'ailleurs, ma musique, ce sont mes mains. L'essentiel de son œuvre est dédié à cet instrument, le piano. D'ailleurs, il voulait se consacrer à l'origine à une carrière de pianiste.
Oui. Oui, il avait appris le piano parce que dans sa famille, il y avait un piano et puis il avait une tante qui jouait du piano notamment. Et puis, il a une révélation pour le métier de compositeur, enfin pour l'activité de compositeur, à l'occasion d'un concert d'une œuvre de Fauré, le quintet, le premier quintet pour piano de Fauré qui avait été donné à Barcelone en 1909. Et là, il avait compris, en entendant cette œuvre, que la musique, c'était pas quelque chose de figé et qu'il y avait pas les œuvres du passé qui étaient écrites une bonne fois pour toutes, mais qu'il y avait une création. Il y avait encore beaucoup de choses de nouvelles choses à écrire. Et là, il s'était dit, je veux être compositeur. Enfin, compositeur, le mot lui plaisait pas trop, parce qu'il disait, ma musique est la moins composée du monde, juste toujours cette idée de l'instinct. Mais c'est à partir de là, donc il était jeune homme, il avait 16 ans, c'est à partir de là qu'il ébauche le projet d'aller à Paris pour se former. Et puis, c'est à partir de là qu'il va commencer à écrire ses premières pièces.
Alors, Federico Mampao a écrit essentiellement pour le piano, mais pas que, comme en témoigne notamment cette mélodie tirée du cycle Combat del Somni, chantée par la soprano Virginia Paramone avec l'orchestre de chambre du théâtre Liouret, dirigé par Josep Pons, une mélodie qui a été orchestrée par Federico Mampao. Alors, Jérôme Bastianelli, vous évoquez dans votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, l'œuvre de ce compositeur catalan, donc quelques mélodies de la musique orchestrale, de la musique sacrée, peu de musique de chambre. Il s'est essayé au quatuor à cordes, il n'est pas arrivé au bout de son entreprise.
Écrit, il y a une pièce pour violoncelle et piano qui s'appelle Le Pont. C'est vraiment très 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 marginal. Oui, l'essentiel c'est le piano et la voix. Parfois aussi a cappella, il a écrit des très belles mélodies a cappella mystiques. Un oratorio, Les Impropères, qui est aussi une œuvre. La dernière partie de sa carrière, à partir du début des années 50, est très marquée par la mystique de Saint-Jean de la Croix, par ses séjours à Saint-Jacques de Compostelle. Ça imprègne une large partie de son œuvre, notamment donc œuvre vocale, mais même aussi son testament pianistique, qui sera la Musica Caliada, cette musique qui se tait, cette sorte de méditation au piano. Tout ça, c'est évidemment, même si c'est une œuvre profane, on sent l'influence des réflexions qui habitaient Mampao à cette époque.
Et comment son langage a-t-il évolué, si on peut à proprement parler d'une véritable évolution, parce qu'il est resté fidèle tout au long de sa vie.
J'ai pas l'impression que son langage est tant que ça a évolué.
Oui, c'est ce que vous sous-entendez d'ailleurs dans ce
ouvrage. Comme s'il avait trouvé assez tôt, dans ses premières pièces qui datent de 1911, comme s'il avait trouvé déjà cette grammaire, les bases de cette grammaire dont je parlais tout à l'heure, comme s'il avait trouvé la manière de conjuguer les accords à sa façon. Et alors après, évidemment, il y a peut-être un chemin à la fin de sa vie vers encore plus de dénuement, une matière encore plus brute, la musique la plus condensée possible. C'était quelqu'un qui aurait aimé, si ça se trouve, écrire peut-être deux accords, son but, de condenser toute l'expression musicale dans un ou deux accords. Je pense que c'était ça un peu son Graal. Ça se ressent dans la Musica Caliada, et puis cette manière aussi de ce jeu avec les résonances. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup, vous avez parlé de son attrait pour les cloches, qui aimait beaucoup écouter les vibrations, les résonances, laisser sonner le piano avec la pédale, laisser vivre les accords le plus longtemps possible. Ça aussi, c'est des choses qu'on retrouve dans le côté contemplatif de la Musica Caliada à la fin de sa vie.
Alors, c'est un compositeur qui, on s'aperçoit, a fasciné de très grands pianistes. Alors, il y a Alicia de la Rocha, qui fut l'une de ses fidèles interprètes. On pense à Jean-François Esser, qui a consacré une grande partie...
Qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface de cet ouvrage.
Et d'ailleurs, qui dit, à propos de la musique de Mampao, que c'est une musique difficile à jouer. Chaque note devient un enjeu, chaque réflexion une prise de risque. Donc, la simplicité visuelle,
oui, on sait que c'est
pas synonyme
à
de simplicité.
La simplicité, oui.
Qu'est-ce qui explique cet attrait, selon vous, Jérôme Bastianelli, de la musique de Mampao auprès de ces grands pianistes? On pense à Arkady Volodos et bien d'autres. Des pianistes qu'on était peut-être habitués à entendre dans des répertoires plus extravertis se tournent vers cette musique si introvertie de Mampao.
Je pense que pour le pianiste, il y a un côté, le côté confident, le côté vraiment une relation profonde entre l'instrumentiste et son instrument. Quand on joue du Mampao, je parlais tout à l'heure de ces vibrations qui vibrent le plus longtemps possible, de cette mécanique qu'on essaie de comprendre, pourquoi tel accord va sonner finalement si largement, alors que si on le joue bêtement, ça va être quelque chose d'un peu sec et d'un peu étrange. Qu'est-ce qui fait que justement ces dissonances passe comme quelque chose de très doux à notre oreille, alors qu'elle pourrait être beaucoup plus brutale. Je pense qu'il y a tous ces mystères, certains pianistes, en fonction évidemment de leur sensibilité, ont envie de les percer à jour. Et quel meilleur moyen de le tenter que de mettre la partition sur le pupitre du piano, et puis de voir comment ça sonne, quoi. Et d'ailleurs, il faut aussi peut-être dire à nos auditeurs que C'est une œuvre qui est évidemment, comme le dit Jean-François Esser, compliquée à bien jouer, mais qui est aussi une œuvre qui peut s'adresser aux amateurs. Monpou voulait vraiment écrire une musique qui s'adresse à tout le monde. Et alors, il y a des choses qui sont très compliquées. Il y a peu de choses très virtuoses, mais il y en a. Mais en revanche, il y a aussi des pièces qui peuvent, au bout de 2-3 ans de piano, dont on peut déjà se faire plaisir. Et les chansons et danses, par exemple, surtout les chansons qui sont un peu plus lentes que les danses, c'est des œuvres qui sont très agréables à travailler.
Et c'est un compositeur qui a aujourd'hui, selon vous, Jérôme Bastianelli, des héritiers. Il a développé un langage si personnel. En même temps, il prenait la création d'une musique catalane qui pourrait aujourd'hui être considéré comme, s'il en existe, un héritier de Mompou.
Là, c'est une difficile question, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il est à part, ouais. Non pas à part de la Catalogne, mais il est à part du monde musical. Et la musique catalane reste très vivante, hein, mais... et même de son vivant, Mompou était très ami avec un autre compositeur qui s'appelait Manuel Blancafort. Et au début de leur carrière, ils avaient des styles qui étaient assez proches. Ils ont évolué un peu différemment. Enfin, Mompou d'ailleurs a eu plus de succès que Blancafort. Il a eu ensuite d'autres relations avec tous les grands compositeurs catalans du XXe siècle, mais je pense pas qu'il y ait eu une influence réelle, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. Chacun.
Il reste unique.
Oui, enfin, il me semble que c'est une sorte de météore dans le ciel, de la composition musicale du XXe siècle.
Mais il est célébré chez lui en Catalogne.
Ah oui,
c'est une gloire locale. Parce qu'en France, on le connaît assez peu. Hein.
En France, on le connaît assez peu. Comme vous le disiez, il y a quand même de plus en plus de pianistes de renom qui le mettent à leur programme. Il faut aussi parler peut-être, je sais pas, d'Alexandre Tarot, par exemple. C'est un compositeur qui, je crois, non pas est redécouvert, ça serait peut-être prétentieux de dire ça, mais qui, dont la postérité s'accroît, qui, je pense, a encore beaucoup de choses à nous dire, d'atouts pour nous séduire en ce 21e siècle compliqué.
Et oui, et c'est une musique qui nous touche profondément, la musique de Federico Mompou, que l'on écoute et que l'on découvre à travers, dont on découvre les secrets à travers votre ouvrage, Jérôme Bastianelli. Federico Mompou, à la recherche d'une musique perdue, cela vient de paraître aux éditions Actes Sud avec une préface de Jean-François Esser que l'on va écouter justement jouer un extrait de ce cycle Musica Calada, la musique qui se tait. Un défi pour un compositeur. Merci beaucoup Jérôme Bastianelli.
Merci à vous.
C'est donc Jean-François Esser que nous écoutions ici dans un extrait du cycle Musica Calada de Federico Mompou. Federico Mompou, un compositeur à découvrir dans cet ouvrage signé Jérôme Bastianelli et publié aux éditions Actes Sud. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin Rieuvernet pour sa réalisation. Je vous retrouve demain en direct du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, et cela dès 20h pour un journal du classique spécial salle, suivi de la diffusion du concert d'ouverture du festival, un festival où nous nous installerons d'ailleurs pendant 15 jours. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel. Excellente soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.